vous salue dans le nom de Jésus. Je suis heureux d'être encore là avec vous et de pouvoir ce matin partager ce que Dieu veut me mettre sur mon cœur. Tout au long de cette semaine, il y a des pensées qui me venaient, qu'il y avait des choses aujourd'hui que nous voyons dans le monde et qui nous perturbent, qui nous troublent. Et on se pose souvent la question, mais Seigneur, que fais-tu? C'est vrai, hein? Vous n'avez pas posé cette question? Pourquoi toutes ces choses autour de nous? Pourquoi cette violence, cette méchanceté qui se manifeste dans le quotidien? Il n'y a pas de jour où rien de ce qui est mauvais ne se passe. Et nous voyons que les médias renchérissent et font que, à travers ce qu'ils écrivent et ce qu'ils disent, des grandes douleurs sont manifestées et des tentations sont aussi manifestées. Pourquoi pas moi? Pourquoi je ne ferais pas ces choses? Pour être entendu, pour être connu, pour être dans les médias, la télévision ou ailleurs, le mal, finalement, règne aujourd'hui d'une façon terrible dans le monde aujourd'hui. Et en Israël, il y a aussi des siècles, il y avait aussi quelqu'un qui s'est interrogé là-dessus. On dit un des petits prophètes, mais qui vivaient quasiment tous à la même époque que là où Israël et Juda étaient sur le point de tomber, de disparaître même de la carte, avec cet exil en Babylone, etc. Toutes ces choses-là étaient là. Et un prophète se posait des questions, et ce prophète, c'est Habacuc. On va prendre ce livre. Si vous le trouvez. Oh, c'est presque à la fin de l'Ancien Testament. Hein. Il n'y a que 3 chapitres. C'est un livre court, mais qui exprime finalement tout ce que Habacuc ressent face à la situation de sa nation, et il interroge Dieu. Et ce livre, finalement, Habacuc, c'est un dialogue entre un homme et Dieu. Il s'interroge sur la situation qu'il vit. C'est à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Jérusalem allait tomber 18 ans plus tard. Il y avait eu un sursis qui devait au peuple d'Israël. Mais finalement, la ville est tombée. La nation est tombée et c'était la déportation. Habacuc, donc, se posait des questions. Et pourquoi cette situation en Israël? Pourquoi ces hommes, ces femmes qui se disent appartenant à Dieu se comportent ainsi? Comment peuvent-ils agir d'une façon aussi abominable? Pourquoi ont-ils abandonné Dieu pour suivre les idoles, pour suivre les dieux des environs? Pourquoi, pourquoi et pourquoi? Que de questions, n'est-ce pas? Et dans le chapitre 2 de ce livre, le verset 1 et 2, je voudrais les lire, je les lis dans la version second 21. Donc peut-être il y aura quelques variantes par rapport à ce que vous avez comme traduction. Hein. Ici c'est marqué « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. » Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Reproche à Dieu. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Ce qu'on lit, on pourrait le lire tout le texte aujourd'hui. Mais vous le lirez. Vous le lirez. Et vous pourrez méditer sur ce texte qui est aujourd'hui, on peut dire, quasiment d'actualité. Parce que on voit que l'Occident chrétien est en train de disparaître. Quand les gens dans le monde parlent de chrétiens, parlent de qui? L'Occident, les Blancs. Et non pas des chrétiens véritables, de ceux qui ont rencontré Jésus et qui vivent de Jésus véritablement, mais de ceux qui disent être chrétiens sans l'être. On voit aujourd'hui dans le monde toutes les persécutions concernant les chrétiens. C'était un peu ce qui se passait pour Israël par rapport aux nations voisines. Il y avait des persécutions terribles. Il y avait des jugements qui étaient portés déjà d'avance. Mais l'Éternel, ici, va répondre. Il va répondre à Habacuc. Et Habacuc va poser des questions. Et de nouveau, il va répondre. Et dans le verset 4, dans ce chapitre 2, il est marqué « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Il dit qu'il est, qu'il appartient à Dieu, mais en fait, son âme n'est pas droite. Il est tordu à tous égards. Et finalement, honteux de ce qui se passait dans Israël. Violence, méchanceté, oubli de Dieu, attachement aux idoles, le triomphe des méchants. Oui. Mais en son temps, Dieu agira. Nous sommes confrontés tous et toutes à des telles situations là où nous sommes. Prise, ça peut être un sujet de moquerie, mais aussi un sujet d'agression. Nous traitons d'intolérants, d'illuminés, d'hommes et de femmes qui croient en des choses qui n'existent pas. Et on veut nous détruire. On voudrait qu'on se taise. Et quand on parle aujourd'hui on parle de la laïcité, on en a parlé un peu il y a peu de temps. Laïcité, ce n'est pas le laïcisme où tout est neutre. On ne peut parler de rien que dans les maisons. Hein, ou ici, et encore. Hein. C'est peut-être un peu d'ironie, mais parfois, dans des églises, on peut entendre des propos qui nous désolent, en disant, mais ouais, on en a parlé tout à l'heure, mais maintenant c'est fini. Hein? On a eu le culte ce matin, on a bien partagé la parole, mais maintenant, terminé, on parle d'autre chose. Vous n'avez pas eu des échos de ce genre de choses parfois? C'est terrible quand on y pense. Pourquoi pas, lorsque nous sommes sortis de la salle de culte, se réjouir de ce qu'on a entendu, de ce qui a été partagé? Et souvent, si on pose la question le dimanche suivant, de quoi a-t-on parlé dimanche dernier? Combien parmi nous s'en rappelle? Ah, oui, il a parlé du baptême, hein? Là, on ne peut pas l'oublier, hein? Mais les dimanches avant, ah, moi je m'en souviens plus non plus, mince. Et vous savez, la nourriture aussi qu'on reçoit, nourriture physique, est-ce qu'on se souvient toujours du bon repas qu'on a fait ou du mauvais repas qu'on a fait? Mais finalement, notre corps a été quand même nourri et ça nous a fait du bien. Vous n'avez pas mangé des aliments qui vous ont rendu malade. N'oublions pas que la parole de Dieu que nous avons en main est une nourriture pour le quotidien, non pas simplement pour le dimanche. Et puis le reste de la semaine terminée. On peut ruminer la parole de Dieu. On peut la ruminer, on peut la vivre même simplement se souvenir des textes et qui nous viennent à l'esprit et qui nous font du bien. Des choses que Dieu nous montre et nous montre par son esprit afin que nous soyons toujours nourris et fortifiés. Et ici, Habacuc a besoin vraiment d'entendre Dieu et de se nourrir de lui. Le thème un peu de ma méditation ce matin, c'est des clés pour écouter Dieu. Des clés pour écouter Dieu. Comment peut-on l'écouter? Je veux dire, moi qui n'aime pas les méthodes, vous m'avez entendu souvent dire, les hommes cherchent des méthodes, mais Dieu cherche des hommes. Hein? Mais dans ce texte, on voit quand même qu'il y a des clés, que Dieu fait en sorte que Habacuc les reçoive. Première clé, en fait, en quoi j'ai pensé, c'est que je dois apprendre à calmer mes propres pensées et mes émotions, de façon à ce que le flot divin se répande à moi. Je dois apprendre à me calmer. Habacuc, t'es énervé. Mais il était sur la tour, il a dit, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Il attend. Une attente. Veillez sur nos pensées. Veillez sur nos réflexions. Veillez sur notre brouhaha intérieur. Ne pas laisser les choses venir nous envahir et qui nous empêchent d'entendre ce que Dieu nous dit. Ne pas se laisser distraire. Ne pas s'assoupir. Se mettre dans un lieu calme et tranquille. Ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. Avec, je disais, les activités de la vie aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir peur du silence, non ? À mon avis, il dure 30 secondes. Parce qu'une minute, c'est long. Si on essaye de rester une minute sans dire un mot, sans parler, en regardant votre montre et la trotteuse qui tourne, c'est long. Et pendant, c'est court. Le silence. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre en silence qu'il nous parle. Quand le prophète, on l'appelait, qui avait détruit les Baals, hein, vous vous rappelez de qui est-ce? Qui est ce prophète? Comment? Élie. Il est parti marcher pendant 40 jours dans le désert pour arriver jusqu'à la montagne et puis il est rentré dans une grotte. Et à ce moment-là, Dieu lui a parlé. Il a gémi, il a crié, il dit « Je suis le seul en Israël qui est vraiment fidèle à toi. » Il dit « Mais non, il y a d'autres hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » Et là, Dieu lui dit de sortir de la grotte. Et c'est dans un simple murmure que Dieu lui parle. Ce n'est pas le feu, ce n'est pas le vent. Ce n'est pas ces choses. Ce n'est pas les explosions, c'est simplement le murmure. Avez-vous entendu le murmure de Dieu? Avons-nous entendu ce murmure dans nos cœurs, dans nos vies? Avons-nous entendu sa voix, frères et sœurs? Il est important qu'aujourd'hui nous puissions être attentifs à sa voix, afin de ne pas commettre des erreurs, afin de ne pas agir d'une façon inconsidérée, afin d'être Seigneur pour toi, tes serviteurs et tes servantes qui entendent ta voix et qui obéissent. Et non pas faire les choses et dire, Seigneur, t'es d'accord? Non. Et s'il dit non, vous êtes, alors vous n'êtes pas d'accord non plus. Faire ce que Dieu attend de nous. Entendre sa voix. Une décision qu'on doit prendre dans la vie. Parmi nous, des hommes et des femmes qui ont pris des décisions il y a peu de temps. Une décision importante pour leur vie. C'est de témoigner de leur foi à travers le baptême. Il a fallu qu'ils fassent silence en eux-mêmes pendant un certain temps pour comprendre que Dieu les attendait là. Et non pas dans des discussions vaines, religieuses, mais dans une décision qui a été prise avec le Seigneur lui-même. Je disais l'autre jour, on avait une rencontre avec les délégués départementaux du GNEF. On parlait de choses et ça. Et ils disaient, on parlait souvent que les conversions dans les églises sont des conversions parfois difficiles parce qu'elles sont superficielles. Superficielles. On suit un mouvement. Il faut le faire. Mais ce n'est pas ça. Le baptême, c'est de suivre Christ et de lui donner sa vie. Et ne pas le suivre, simplement, et suivre la, comme des moutons qui suivent une mode. C'est d'avoir une prendre une décision. Et dit souvent, bon, on voit que les préparations au baptême ne sont pas du tout celles qu'elles devraient être. Alors, moi, je dis en plaisantant, moi, je n'ai pas eu de préparation au baptême. Puisque j'ai des 8 jours après ma conversion, j'ai été baptisé. Donc, 8 jours après, j'ai eu une révélation aussi. Hein. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Ayez une révélation. Soyez attentifs à ce que Dieu veut vous dire, et, afin que vous le fassiez. Et non pas ce que vous pensez être juste. Avez-vous l'âme calme et tranquille? J'espère que pour nous, ce calme vient dans notre cœur et nous fasse que nous allions de progrès en progrès, de révélation en révélation. Pas des illuminés, mais des gens qui sont raisonnables, mais qui ont rencontré vraiment Dieu et qui veulent le suivre et l'honorer. Habacuc était énervé. Dieu l'a calmé. Il a compris. Je me tiens là, au silence, en silence pour entendre ce que tu vas me dire. Et comment tu vas exprimer finalement par rapport à mes reproches. Je pense que personne d'entre nous ici ne peut dire que je n'ai jamais crié à Dieu pour dire pourquoi ça. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais osé élever la voix contre Dieu, contre ce qu'il fait, pour la manière des choses, et ce qu'il ne fait pas, apparemment. Je vais lui demander de se lever. Non. Tous, chacun d'entre nous, nous avons péché. Et même en tant que chrétien convaincu et assuré, on a aussi parfois des réactions qui sont des péchés dans nos vies. Et nous devons le reconnaître et le confesser et l'abandonner. Ne pas garder cela au fond de son cœur. Parce que c'est terrible comment notre cœur peut être déchiré. On dit qu'on aime et en fait on n'aime pas. Atteignons cette révélation, voyons cette relation avec Dieu, une relation d'intimité. Intimité. Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Et Dieu veut faire de nous des amis qui peuvent s'approcher de lui avec confiance, qui sont accueillis avec joie et auxquels on donne la bonne réponse. Ce qu'on ne va pas balader. Il est possible que nos pensées viennent et naissent au milieu de nous, des pensées encore qui sont là, qui viennent aussi de notre nature et qui font que nous sommes encore en rébellion. Mais on peut dire non. On peut dire non. Et on doit dire non à toutes ces pensées qui viennent dans notre cœur et qui veulent en somme rendre Dieu responsable des situations que nous vivons. Un tri. Parmi ces pensées. Garder celles qui nous élèvent et rejeter celles qui nous avilissent, qui nous rendent esclaves. Je me tiendrai à mon poste et je resterai debout devant le Seigneur pour entendre ce qu'il a à me dire. Une deuxième clé importante pour nous, chrétiens, aujourd'hui, à travers toutes les agressions que nous pouvons recevoir. Je disais l'autre hier, on faisait des courses et on regardait mal les magasins, et quand vous regardez les vitrines, parfois, et surtout, souvent, c'est choquant. Mais c'est rentré dans la nature. Il n'y a plus de tabou. Tout est permis. l'activité aujourd'hui est reliée encore à mai 68, où j'y étais. Hein. J'ai fait grève. Et on discutait beaucoup, hein. Profs, élèves, etc. Mais je me suis converti ensuite, alors donc tout a changé. Mais c'était quelque chose, oh là là ! Et je me rappelle toujours qu'à la Sorbonne, on avait écrit sur les murs d'une salle, je crois, « Il est interdit d'interdire, 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 d'interdire... » La spirale. Et on le ressent encore aujourd'hui. Il est interdit d'interdire. C'est un non-sens. Interdit d'interdire, ça ne veut rien dire. Si on interdit d'interdire, c'est que, en fait, on interdit. Je m'affectionne, clé numéro 2, aux choses d'en haut. Je recherche les choses d'en haut. Habacuc ne regardait pas le sol, simplement ce qui se passait en bas de la tour. Il levait les yeux vers le Seigneur, dans un endroit élevé. Au-dehors de tout le brouhaha et du bruit que pouvait faire la ville et la région. Il était sur la tour, élevé, en haut, sur le toit. Et il avait les yeux tournés vers le ciel, vers les choses d'en haut. Regardons dans Colossiens 3:2. À partir du verset 1 d'ailleurs. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort de votre vie, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les choses qui sont en vous et contraires à Dieu. Affectionnez aux choses d'en haut. Habacuc était préoccupé par la condition de ce qui se passait en bas. Et le Seigneur lui a dit, je vais m'en occuper. Cesse de te préoccuper pour cela. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui va punir les méchants. C'est moi qui va les envoyer en exil. C'est moi qui va les tasser, les broyer. Il faut. Mais toi, occupe-toi des choses d'en haut. Nous sommes souvent, vous voyez, détournés du but véritable de notre vie chrétienne, c'est de servir Dieu et de l'honorer. Et non pas de nous préoccuper de ce que le monde fait. Le monde, c'est le monde. Nous sommes dans le monde, mais hors du monde. Et nous voulons voir, peut-être que c'est une chose qui vous choque quand je dis cela, mais moi, je me préoccupe des choses d'en haut. Et de ce que nous vivons dans l'Église, où les choses de Dieu, nous devons les manifester, les vivre, et non pas simplement voir les choses du monde pénétrer dans l'Église. Que l'influence du monde vienne ici, au milieu de nous, et fasse que nous devenons tièdes, éloignés de Dieu. Quasiment, tout en disant qu'on y est. Oh, le monde a beaucoup d'avantages, mais il présente aussi beaucoup d'inconvénients et beaucoup de choses difficiles à vivre dans le quotidien. Vous qui êtes encore en activité dans le monde, moi je suis un bon retraité, c'est relatif, mais retraité quand même. Alors, vous êtes confronté à des situations difficiles, c'est vrai. Mais si vous regardez en haut, si vous faites confiance à Dieu, il s'occupera de vous. Il s'occupera de vous et vous donnera la paix, la foi, la confiance, l'assurance. Il mettra en vous les fruits de l'esprit pour être ceux qui sont des témoins et qui aussi, à travers notre rayonnement personnel, touchent ceux qui sont dans le monde et les transforment et les amènent à Christ. Moi, j'ai comme vous, j'ai des réactions comme ça quand je vois les trucs terribles dans le monde. Je dis, mais c'est pas possible. À la limite, presque, j'aurais tendance à prendre aussi une arme et y aller, quoi. Non? Pour leur régler leur compte. Hein, la tendance. Mais c'est pas ce que Dieu demande. Il va s'en occuper. Tournez vers le Seigneur. Notre position de chrétien doit être ainsi, frères et sœurs. Ce n'est pas d'être enfermé dans sa tour. Ce n'est pas d'être ramassé dans une maison et puis tant pis pour ceux qui sont dehors. Nous ne sommes pas une secte. Nous sommes une assemblée qui veut honorer le Seigneur et qui a les yeux sur les réalités de l'extérieur, mais qui ne sont pas là pour les combattre d'une façon absolue, mais pour honorer Dieu par notre vie à chacun. Les yeux tournés vers l'Éternel. Et surtout, la clé numéro 3, c'est de toujours chercher la relation avec Dieu. On peut tourner vers le haut sans rien voir. Ouais. Sans rien entendre. Mais cherchons une relation avec Dieu lui-même. Être prêt à dialoguer avec lui. Vous pouvez aller dans les bois, au bord de la mer, en montagne, et puis vous criez, si vous voulez. Et vous attendez que Dieu vous réponde. Vous attendez qu'il vous réponde. Vous ne continuez pas à crier. Ça ne sert à rien. Il n'est pas sourd. Dieu entend nos voix, même si nous murmurons. Et rendez-vous compte qu'il y a des milliards de personnes sur la terre et que Dieu entend chacun, s'il veut bien s'adresser à lui. C'est extraordinaire, on y pense. Des milliards de personnes qui peuvent parler tous en même temps à Dieu. Et Dieu connaît chacun. Et il répond à chacun. Lorsqu'on est volontaire, on est désireux d'entendre sa voix. Regardez. Je ne sais pas si c'était ça doit être vendredi, pardon, j'étais à l'intercession un autre jour, il y avait une mission sur l'Inde. Il ne faut pas rêver, je crois. Pas ça? Hein, c'est ça? Bon, peut-être. Je ne rappelle pas du nom. En tout cas, on voyait l'Inde avec la ferveur face à des gourous. Il y avait un homme qui était assis dans un fauteuil avec un bel habit. Or, avec une tiare sur la tête, et toute la journée, les gens venaient pour lui toucher le pied. Toute la journée. Alors, il y avait le reporter qui disait, mais quand est-ce que vous vous reposez? Oh, je prends une heure ou deux dans la journée, mais je suis quand même fatigué. Finalement, on le prenait pour vraiment un maître, un dieu, et on lui touchait le pied. Un peu comme la statue de Saint-Pierre à Rome, où on vient embrasser les pieds, hein, la statue. Qui est usé au fil des siècles. Et on voit des hommes qui vont adorer un autre homme, qui vont avoir des pensées, qui vont brûler de l'encens, qui vont aller se baigner, si c'est le Gange, je ne sais plus quelle rivière, quel fleuve, qui se baignent dans ce fleuve pour évacuer leurs péchés. Ils le disent, hein. Ils le disent bien. Il y a des hommes, ils s'adressent sans le savoir à Dieu. Ils pensent s'adresser à un homme, ils pensent s'adresser à un fleuve ou autre, mais finalement, ils s'adressent au Créateur, sans le savoir. Quand le Sadhu Sundar Singh, qui était un sage hindou dans les années 30, du siècle précédent, a voulu un jour, il en avait assez, il savait tout, il connaissait tout, il avait 16 ans. Bien, hein, vous les jeunes, là, 16 ans, là. Vous savez tout? Presque. Vous avez plus de moyens de connaissances que moi, à votre âge. C'est sûr. Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas le téléphone portable. Il y avait simplement des livres. Des livres. Et la radio. Un peu. Aujourd'hui, vous avez une capacité incroyable pour apprendre et pour recevoir, pour penser, pour croire qu'on sait. Et aujourd'hui, quand nous regardons notre vie à tous, ceux qui disent connaître Dieu sont loin. Mais Dieu cherche et se laisse chercher par ceux qui ne le cherchaient pas. Se laisse trouver par ceux qui ne cherchaient pas. Le Sadou, donc, lui, à 16 ans, il a dit, ma vie maintenant est terminée, je sais tout, donc je peux mourir pour être réincarné. Et puis il est allé sur une voie ferrée, puis il s'est allongé sur la voie, en attendant le prochain train. Et à ce moment-là, Jésus lui est apparu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Lève-toi. Et va. Et il est rentré chez lui, et dès qu'il a annoncé qu'il connaissait Jésus-Christ, il a été mis dehors. Et il a été mis dans la forêt où il y avait les tigres, les nageurs, les cobras, tous les serpents venimeux. Et il a été gardé dans cette forêt. Et il a marché, il est arrivé dans une mission protestante. Dieu l'a conduit vers un lieu où il a pu recevoir un enseignement. Qui était Jésus? Il ne savait pas. Il s'est révélé à lui. Mais Dieu a changé sa vie. Il est allé là où on a pu lui apporter un enseignement. Et à travers cela aussi, le Seigneur l'a conduit à être vraiment un prophète qui annonçait des nouvelles extraordinaires un peu partout, qui passait à travers son pays et qui est venu en Europe. Et on disait que lorsqu'il marchait dans la salle où il était, pression qu'il y avait une aura sur lui, telle qu'on sentait la présence de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu. Les gens, finalement, lorsqu'ils passaient, étaient impressionnés, dans le bon sens du terme, parce que Dieu était là et agissait dans sa vie. Cet homme était gamin, il a rencontré Dieu, et sa vie a été changée, transformée. Il était prêt à mourir, mais pas pour la bonne cause. Et Dieu lui a redonné la vie. Il s'est tourné vers le haut, vers le Dieu lui-même. Et il a pu, en somme, dialoguer avec lui. Il a parlé, Dieu lui a parlé, lui a répondu. Nous aussi, aujourd'hui, cherchons vraiment la face de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu sa voix, pour ceux qui pensent que Dieu existe, qu'il est puissant et grand, ce n'est pas suffisant. Mais que Dieu veut vous aider à dialoguer avec lui, à le rencontrer vraiment et à vivre une vie abondante. L'abondance de Dieu, pas l'abondance de la bouche. Mais une chose importante, il faut laisser Dieu parler le premier. C'est lui qui va parler en premier. Vous attendez et il va vous conduire. Comme Samuel, ce gamin, vous vous rappelez, aussi tout gamin, qui était là dans le temple et puis il avait entendu une voix. Samuel, Samuel. On lui a demandé des explications et Élie et son menteur lui a dit, mais c'est sûrement Dieu. Alors, quand tu entends une voix, dis-lui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et Habacuc agit ainsi. Il a accepté, finalement, de laisser Dieu parler. Parce que souvent, nous parlons. On prie. Mais est-ce qu'on attend que la réponse de Dieu vienne? Frères et sœurs, réfléchissez. C'est pour ça que je dis que la prière est une grande force pour le chrétien. Et je vous invite encore à venir prier à l'Église. Pense à le mardi prochain, venez, c'est le premier mardi du mois, où nous allons nous retrouver tous les groupes de prière, les groupes de maison ensemble. Prions ensemble. Cherchons la face de Dieu ensemble pour qu'il nous parle et qu'à travers aussi les paroles qui peuvent être transmises de la part de Dieu aux uns aux autres, nous nous fassions du bien. S'il faut être repris, nous serons repris. Si nous devons être encouragés, nous le serons. Mais n'oubliez pas que la réunion de prière est une force pour l'Église. Une Église sans prière est une Église morte. Morte, 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 je dis bien. Il n'y a qu'une apparence. Je me rappelle avoir lu une petite anecdote de ce genre en disant qu'il y avait une église, c'était marqué « Église de Jésus-Christ Sauveur ». Il y avait sur l'extérieur de l'église, sur le mur de l'église, à l'extérieur, cette phrase « Église de Jésus-Christ Sauveur ». Puis voilà que Allière a poussé. Avec Allière, c'est envahissant. Hein. Le lierre montait le long du mur. Puis à un moment donné, il a commencé par le bout. Hein. Sauveur a disparu. Église de Jésus-Christ. Puis, Christ est disparu. Église de Jésus, qui est Jésus? Puis ensuite, Jésus a disparu. Église. Église. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Le lierre, c'est un peu l'image de l'envahissement de la mondanité sur nos vies. Je viens à l'église. Moi, j'aime bien ici qu'on dit « je vais à la bonne nouvelle ». Super. C'est mieux que de dire à l'église de monsieur Attel. Parce que c'est l'église de monsieur, c'est plus l'église de Jésus. On est à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Je me réjouis parce que ici on veut annoncer la bonne nouvelle. Que chacun de nous, nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle et que nous voulons la transmettre. Habacuc avait crié, il s'est tu, il a écouté. Et quand Dieu lui a parlé de tous les malheurs, de toutes les détresses qui allaient encore arriver, non plus dans le sens de laisser les méchants agir, mais de les punir. Il parle des gens malhonnêtes, il parle des gens violents, il parle de ceux qui enivrent les autres, qui les amènent à faire la fête. À ceux qui ont des idoles, ceux-là vont être punis. Alors frères et sœurs, réfléchissons. Si dans notre vie encore, nous avons des choses que nous faisons et qui ne sont pas justes, abandonnons-les. Abandonnons-les, il faut s'en débarrasser. Parce que c'est le monde qui est ainsi, mais l'Église, non. L'honnêteté, être juste, honnête, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pratiquons, ça c'est important aujourd'hui pour nous en tant que chrétiens, parce que ça se remarque, ça se voit. Un exemple tout simple, on peut employer des gens au noir. Oh ben, il y a un petit... Il y a un petit, comment dirais-je, plombier du coin, là, qui bricole un peu. Il pourrait me faire ça, changer mon chauffe-eau, ma chaudière, ou tout ce qu'on veut, d'une façon pas légale. Mais ça coûte moins cher. Dieu nous demande d'être honnête. On emploie une personne à la maison, puis on ne la déclare pas, mais c'est même arrivé. Envoyer une femme de ménage, on ne l'avait pas déclaré. Et là, on l'a déclaré. Parce que Dieu me montre que c'est des choses qui sont anormales, qui sont contraires à la vérité. Et ça, c'est important. Pour dire, bon, c'est pas grave, on lui donne 20 euros, ça ne va pas loin. Mais ce qui est important, c'est ce que, honnêtement, par rapport aux lois, par rapport à ce que nous vivons et par rapport à Dieu, nous devons être honnêtes. Les violents. On voit des très bons chrétiens qui sont des hommes violents avec leurs femmes. Qui peuvent être dans la vie de l'Église, des parfaits saints. Qui ont Dieu à la bouche et qui ont l'attitude, oh, ils ont des belles prières. Ils agissent avec dans l'Église, mais alors... On ne peut que les remarquer. Mais si on va dans leur maison, si on se place chez eux et qu'on entend les choses, qu'on voit les choses, on les remarque, peut se poser des questions. Le jugement est sur leur vie. On rappelle toujours d'une jeune femme qui venait à l'église, et puis le dimanche matin, super, voilà. Mais la veille, elle avait passé sa soirée en boîte de nuit. Musique du monde, on danse. Et on danse dans l'église pour le Seigneur, bien sûr. Mais où est la vérité? Les idolâtres. Débarrassons-nous de ce qui est de notre ancien passé. Tant religieux qu'autre chose. Parce qu'on peut avoir des idoles qui ne sont pas simplement des statues. On peut avoir des idoles qui sont finalement des hommes, des femmes. Vous savez, la musique déjà. On peut... Je me rappelle, quand j'étais aux États-Unis en 84, il y avait un mausolée pour Elvis Presley. À Tupelo, hein, à Tupelo. Il y avait des cars qui venaient du monde entier. Disons, les gens venaient par avion pour aller se toucher le tombeau d'Elvis Presley. Luis Mariano était en France. Vous connaissez? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes. Il y a encore des gens aujourd'hui qui vont là-bas dans le Pays Basque pour aller voir sur sa tombe. Et d'autres. Et puis qui peut se dire chrétien, mais j'aime bien cet homme, ce musicien, c'est super parce que vraiment. Et qui s'habille comme lui? Idolâtre. Le Seigneur veut nous garder, frères et sœurs, de cela. Veillons, réfléchissons à ce qu'est notre vie aujourd'hui par rapport à ce que ce devrait être pour lui. Le prophète dit, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer et je suis effrayé devant ton œuvre. Je vais punir. Tu n'es pas à l'abri de la punition. Le baptême ne te sauve pas. Tu dois travailler à ton salut toute ta vie, jusqu'au bout. Comme disait Paul, je n'ai pas encore atteint le but, mais j'y cours. Courons les uns les autres, frères et sœurs. Ne nous laissons pas influencer par les choses du monde, mais agissons comme enfants de Dieu, les uns et les autres. Tenez-vous sur la tour. Veillez et regardez vers le ciel et attendez de l'Éternel le secours et l'aide, tout ce qu'il veut vous donner. Et quand, dans ce livre d'Habacuc, il faut que je le retrouve maintenant, hein. J'ai perdu la page. Ouais, je l'ai trouvé. À la fin de ce livre, il décrit quelque chose d'important. Les versets 18 et 19, dans le chapitre 3 d'Habacuc. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Dieu nous élève, Dieu nous fortifie, nous renouvelle. Et même si nous sommes fatigués, épuisés, découragés, Dieu va nous relever, nous donner les forces si on s'appuie vraiment sur lui. Que ce matin, nous puissions tous et toutes réfléchir à ce que Dieu nous demande de faire. Et que dimanche prochain, si on vous pose la question... De quoi a-t-on parlé? Vous pourrez répondre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin. Que ton nom soit glorifié par chacun d'entre nous. Que notre vie, Seigneur, t'honore. Que notre vie te glorifie à tous égards. Et que nous soyons ces témoins pour toi dans le monde d'aujourd'hui. Oui, nous voyons la violence, la méchanceté. Mais nous sommes porteurs de l'amour de Dieu. Porteurs de la vie de Dieu, de la paix de Dieu, que nous puissions être cela, là où nous sommes. Conduis-nous et dirige-nous, afin que, Seigneur, encore aujourd'hui, nos cœurs soient dans l'allégresse pour ce que tu es. Tu es notre force. Et garde-nous tout au long des jours qui viennent. Garde nos vies. Amen. Amen.